Il est 9h41 sur France Inter, l'instant M, c'est parti, profitez.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Nouvelle formule en kiosque ce matin de L'Express, hebdomadaire racheté il y a 2 ans par Patrick Drahi, déjà propriétaire de SFR et Libération, aujourd'hui de BFM TV et bientôt RMC. Enfin, les deux, bientôt, mais c'est quasi déjà dans la boîte. L'Express soumis à un plan social drastique, on s'en souvient. L'Express, dont les ventes ne cessent de baisser, dont l'image surtout s'est complètement brouillée. C'est pourtant ce qui a fait la force, la vie, l'identité des grands hebdomadaires français. Leurs ancrages idéologiques et politiques très marqués, très différents. Or, s'il est un titre qui a pu dire tout et son contraire ces dernières années, c'est bien L'Express. Bonjour Guillaume Dubois.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien patron de BFM TV, ouais. Devenu directeur de la rédaction de L'Express l'année dernière. On l'a compris, c'est maintenant la même famille. Quels moyens donnez-vous à ce titre pour remonter la pente? C'est la question qu'on va vous poser.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Après Newen et AB Productions, encore un gros producteur de contenu télé qui vient d'être racheté. Le Village Français, vous en reconnaissez peut-être, le générique passe sous pavillon anglais. L'un des plus importants pourvoyeurs de séries en France, Tetra Media Studio, qui produit aussi Profilage ou encore Les Hommes de l'Ombre, vient d'être acquis par ITV, la première chaîne de télé britannique qui a exporté aussi ses séries anglaises Downton Abbey ou au chapeau melon et bottes de cuir dans le monde entier.
I gotta say, it's always great to see you, but I gotta...
Nice to see you as well.
How did you get under my desk?
I have a tunnel.
A tunnel?
A tunnel that I've built straight from my farm.
Ça, c'est du Stephen Colbert dans le texte et c'est sur la chaîne américaine NBC. Hier, YouTube a dévoilé, pardonnez-moi, sa future offre télé aux États-Unis. $35 par mois, 40 chaînes, une fonction d'enregistrement illimitée. L'idée est de séduire la population qui n'est pas ou qui n'est plus abonnée au câble et au satellite aux États-Unis. Sachez qu'un ménage américain dépense en moyenne $90 par mois pour une centaine de chaînes. Je rappelle à ceux qui l'auraient oublié que YouTube appartient à Google et je vois mon invité sourire. Mais qu'est-ce qui va échapper bientôt dans le marché des médias, le secteur des médias et toute la publicité qui va avec à Google? On va en reparler évidemment avec Guillaume Dubois. Alors, je l'ai dit, Guillaume Dubois, votre groupe a racheté L'Express début 2015. Vous avez pris les rênes du magazine courant 2016. Vous êtes donc nommé à la tête de la rédaction de L'Express. Vous commencez par écarter Christophe Barbier, directeur de la rédaction très médiatique, très emblématique du titre. Une façon de signifier son échec face à la chute des ventes et face surtout à cette image du titre, à son positionnement qui s'est totalement brouillé, comme je l'ai dit.
Non, je crois que c'était surtout une manière de montrer qu'une nouvelle époque s'ouvrait. Christophe Barbier reste au sein de L'Express. Éditorialiste. On a estimé avec les dirigeants du groupe SFR qu'il fallait impulser un nouvel élan et qu'on m'a confié cette délicate mission depuis le mois d'octobre dernier.
Voilà, et puis plus qu'éditorialiste toujours dans les premières pages de L'Express, c'est également un éditorialiste sur BFM TV, Christophe Barbier.
Ça, c'est les synergies de groupe.
Les synergies de groupe. Bon, vous avez pris le job, je l'ai dit, les ventes n'ont fait que dégringoler. Il faut dire un mot de vos ventes en kiosque qui se sont énormément affaiblis. En 2013, L'Express vendait encore 60 000 exemplaires en kiosque. Le kiosque, c'est très important. Hein. C'est vraiment l'acte d'achat spontané du lecteur et non pas de l'abonné. Il en avait 420 000.
C'est important, symbolique. C'est pas si important que ça économiquement, parce que là, les ventes en kiosque, c'est 10 à 15 % de nos ventes en général. C'est symbolique. C'est vrai que c'est un indicateur sur lequel il faut porter une attention particulière, parce qu'il signe la dynamique, la désirabilité, l'attractivité du titre.
La force de votre couverture aussi,
et aussi
chaque
la
semaine.
Force de couverture chaque
enfin,
semaine.
Là, quand même, une moyenne à 27 000 exemplaires vendus par semaine en kiosque en 2016, c'est très très bas. Valeurs actuelles est à 28 000, L'Obs à 32 000, Marianne à 51 000, Le Point à 56 000. Ça vous place vraiment en queue de peloton, Guillaume?
Alors, on est en queue de peloton sur les ventes en kiosque. Oui. On n'est pas très fiers. C'est un sujet sur lequel, effectivement, il faut remonter la pente. D'abord, stabiliser les choses et puis on espère repartir de l'avant. Il faut quand même préciser que l'ensemble de la presse magazine papier va très mal, que l'ensemble de cette famille des univers des news va mal. Les chiffres en pourcentage de baisse, hein, tous les chiffres sont dans le rouge chez tout le monde. Un petit peu plus chez nous, c'est pour ça qu'il fallait changer les choses. Pour ce qui est des acheteurs, des ventes en kiosque, je préciserais quand même que les chiffres d'audience de l'Express restent bons. L'audience, c'est l'ensemble des gens qui, sur un mois, lisent l'Express sur ces critères de l'audience.
L'audience, par exemple, c'est que quand on achète l'Express et qu'on le rapporte à la maison, il y a deux ou trois personnes, par exemple, qui peuvent le prendre en main et le lire.
Exactement.
Voilà, donc ce qui fait beaucoup plus de lecteurs que le nombre d'exemplaires.
Sur ces critères-là, on est encore le numéro un de notre famille des news magazines, mais vous l'avez dit, la situation était préoccupante, d'où notre besoin de bouger, à la fois sur le magazine papier, qui est un petit peu la vitrine de la marque, évidemment, historique, depuis 63 ans, mais plus largement en termes de stratégie, et évidemment avec une nécessité d'accélérer une transition numérique, parce que on croit au papier, mais on imagine malgré tout que l'avenir et que la reconquête, le rebond du titre se passera
sur
dans
un
l'univers
écran.
Digital.
Voilà, alors on va reparler. Le positionnement du magazine n'est pas mieux identifié depuis votre prise en main. On va voir s'il se précise là avec cette nouvelle formule. Nouvelle formule le 9 mars 2016, il y en a déjà eu une l'année dernière. Emmanuel Macron en couverture. Nouvelle formule 1er mars 2017, Brigitte Macron en couverture.
On est cohérent, oui.
Très cohérent, que nous écoutons Brigitte Macron.
20 octobre 2007, Emmanuel épouse Brigitte.
Brigitte, consentiez-vous à prendre pour époux Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, consentiez-vous à prendre pour épouse Brigitte Macron?
Oui.
Voilà, extrait du film que François avait consacré au candidat Emmanuel Macron fait vendre. Ça, c'est une vraie question qu'on peut poser à l'ensemble des patrons de la presse magazine en ce moment. Mais la pipolisation des hommes politiques fait-elle vendre aussi? Paris Match a donné le ton sur le couple Macron. Guillaume Dubois, manifestement, vous emboîtez le pas.
Alors moi je ne sais pas si la pipélisation fait vendre. Moi je n'ai pas le sentiment de participer à une pipélisation avec des couvertures sur des hommes politiques de premier plan.
Et
Emmanuel
sur leur
Macron,
femme.
Vous l'évoquez. Sur leurs femmes non plus, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui je crois que on ne peut pas sérieusement prétendre que l'environnement immédiat, l'entourage, les conjoints des hommes politiques de premier plan sont pas des personnalités importantes, y compris dans la vie politique. Je crois que tout le monde sait que si on remonte à 2007, que le démarrage du quinquennat Sarkozy a été très fortement impacté par les difficultés du couple. Ça lui a fait connaître sa première grosse boulette avec les vacances sur le yacht de Monsieur Bolloré.
Et tout le monde se souvient des interviews exclusives de Carla Bruni données à l'Express également.
Voilà, là aussi il y a une continuité, une tradition.
Oui, voilà,
Carla Bruni avait fait la couverture de l'Express en 2007. Valérie Trierweiler a fait la couverture de l'Express en 2012 à deux reprises, au moment là encore d'une entre guillemets crise du couple, dont on sait depuis, ça a été écrit partout, que là aussi elle a influencé fortement les débuts du quinquennat Hollande. Donc je crois que c'est un phénomène incontournable qu'on peut pas nier, qu'il est intéressant de creuser, et qu'aujourd'hui Emmanuel Macron, à l'heure où nous nous parlons, il est le favori à l'élection présidentielle en France. C'est pas rien. Qu'on s'intéresse à son entourage immédiat, ça me paraît important. On pourrait s'intéresser à son programme, mais manifestement, il n'est pas encore très précis, son programme.
Il arrive.
En tout cas, il arrive, on verra bien, on aura d'autres occasions
numéro.
De le faire.
Je vous propose d'écouter Marine Le Pen en meeting.
Comment croire à la liberté de la presse lorsque des grands patrons de groupes de médias, comme M. Drahi, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ont bénéficié de coups de main directs dans le rachat d'une entreprise comme SFR et font du coup outrageusement campagne pour leurs bienfaiteurs?
Marine Le Pen ne dit pas tout, mais elle sait très bien sur quelle corde elle joue. Bernard Mourad, ancien patron d'Altice Media Group, donc qui est la branche média du groupe de Patrick Drahi, a quitté ses fonctions pour devenir le conseiller spécial d'Emmanuel Macron. Et donc on voit cette rumeur rampante distillée habilement pour essayer de discerner votre positionnement. BFM TV a même dû se justifier sur les temps de parole accordés au camp Macron.
Oui, alors sur les temps de parole, enfin je ne sais pas si on veut revenir,
non,
tout ça est transparent sur BFM
totalement.
TV que j'ai dirigé, vous le rappeliez, pendant 10 ans, on a été pro-Sarko, anti-Sarko,
et BFM TV
pro-Hollande, anti-Hollande,
avec,
pro-FN, anti-FN.
Avec les chiffres du CSA qui étaient extrêmement parlants.
Là, effectivement, imaginer, croire que Patrick Drahi s'implique dans tout ça, dans les choix éditoriaux, c'est les drires quand on le connaît un petit peu, ce qui est mon cas. Entre nous, il s'en fout complètement. Soyons très clairs. Tout ce qui lui importe, ce qu'il veut, c'est que les médias du groupe qui contrôle soient des médias de qualité, qui trouvent leur public. Point barre. À aucun
ça
moment.
Ça s'est pas gagné encore. À
aucun moment.
Ni pour Libération, ni pour
L'Express. Il y a eu une quelconque instruction,
soupçonner.
Ni à BFM TV à l'époque, et toujours et pas plus aujourd'hui, ni évidemment à L'Express, pas plus à Libération. Après, Marine Le Pen, elle joue sur des ressorts classiques. Mm-hmm. Donald Trump aux États-Unis utilise les mêmes et a utilisé les mêmes. J'ai pas plus de commentaires à faire là-dessus.
Alors justement, où est L'Express politiquement? Là, pour le coup, c'est une vraie question que beaucoup se sont posées ces dernières années. On écoute Yann Delécotet, il était l'un de vos prédécesseurs il y a quelques années, le jour des 40 ans de L'Express.
En 1953, L'Express était un journal de combat, engagé dans un projet qui était la décolonisation et aux côtés d'un homme qui était Pierre Mendès. Mais entre-temps, il s'est passé des choses, c'est-à-dire la responsabilité de L'Express à l'époque, la guerre d'Algérie, c'est fini. Le général de Gaulle et Pierre Mendès-France sont morts, ils ont été remplacés ni à gauche ni à droite. Et aujourd'hui, on essaie de maintenir le grand courant réformateur qui a été celui de L'Express, toujours celui de L'Express depuis son origine. C'est-à-dire qu'on prend position.
Alors, peut-être que la seule fidélité qu'on peut reconnaître à L'Express ces dernières années, c'est d'avoir été fidèle à une ligne ultra-libérale, d'un point de vue économique. Mais dans votre édito, Guillaume Dubois, vous tenez à repréciser ce qu'est L'Express, parce que manifestement, plus personne ne le comprend. Vous dites « nous sommes conservateurs », vous appuyez sur l'histoire et l'identité, « nous sommes libéraux », car vous dites « nous sommes européens malgré tout », »,« nous sommes progressistes », c'est-à-dire que vous êtes pour une prospérité partagée.
Je crois la spécificité de L'Express, c'est d'une part d'avoir une longue histoire, plus longue que ses concurrents. En même temps, on n'est plus en 1953 et effectivement, comme le rappelait dans ce son Monsieur Delécotet, Pierre Mendès-France n'est plus dans le jeu politique depuis un certain temps. C'était un grand homme politique, qui a certainement pas eu la carrière qu'il méritait, mais ça c'est de l'histoire ancienne. En revanche, il évoquait le camp réformiste. Moi, ce qui m'importe, c'est d'essayer de s'affranchir des étiquettes. Je crois que c'est d'autant plus délicat.
C'est intéressant qu'il revendique le camp réformiste alors que vous commencez par vous montrer conservateur.
Oui, alors j'ai dit conservateur et libéral et progressiste. Je cite Benjamin Disraeli dans mon édito. Pourquoi c'est important? Parce qu'effectivement, on a deux concurrents directs. Il y en a un qui est l'Obs, qui est étiqueté à gauche. On a un qui est Le Point, qui est étiqueté à droite. Historiquement, pour L'Express, c'est un petit peu plus délicat. C'est un journal qui est né au centre-gauche, qui a évolué plutôt vers le centre-droit, dont les lecteurs aujourd'hui doivent aller d'un vote Fillon à un camp peut-être Valls, peut-être pas jusqu'à la gauche du PS, mais enfin en tout cas vers la droite du PS.
Donc
certainement.
Donc vous êtes plus conservateur que l'Obs, plus libéral que Marianne, plus progressiste que Le Point, c'est ça?
Exactement.
Merci.
Et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse insuffler et participer à une vision un petit peu plus optimiste et enthousiaste de l'avenir, pour l'avenir en général et pour l'avenir du pays. Et puis si ça peut contribuer à être aussi optimiste pour l'avenir et de L'Express, ce sera formidable.
Alors, parlons
encore une fois avec un accompagnement vers le digital.
De son contenu, L'Express est très cher, 4,50€, plus cher que Marianne, plus cher que L'Obs.
Comme Le Point.
Est-ce que le lecteur en avait pour son argent? Parce que là, il y a une nette augmentation de la pagination, manifestement.
Je pense que vous mettez le doigt là où ça faisait mal, je pense.
C'était
quand je suis arrivé il y a quelques semaines à la tête du journal, que le lecteur n'en avait pas ou n'en avait plus pour son argent, et j'ai souhaité notamment densifier le journal d'un point de vue tout à fait mécanique, déjà avec chaque semaine au moins une quinzaine de pages en plus, et puis densifier aussi dans la diversité des sujets, en rubriquant, en créant de nouvelles rubriques.
Alors on va en parler des rubriques, mais d'abord, je l'ai rappelé, vous êtes arrivé au terme d'un plan social qui avait été qualifié de carnage éditorial par votre rédaction, beaucoup de départs, 15 pages en plus et moins de journalistes, c'est faisable?
Oui. Oui, oui, c'est faisable, c'est une question d'organisation. Je crois qu'on y arrive bien et on va le montrer au cours des semaines qui viennent que c'est tout à fait faisable.
En même temps, c'est intéressant parce que c'est peut-être pas un sujet, mais c'est vrai que vos sujets sont denses et sont fouillés, sont intéressants, plutôt bien anglais pour cette premier numéro. En même temps, il y a que 4 sujets sur la séquence France et monde. 4 sujets, c'est pas énorme. Moi, je pense à Libération, par exemple, qui produit tous les jours d'excellents papiers, mais qui, en même temps, on le sent bien. Cette rédaction, elle n'est pas assez étoffée, elle est à l'os, ils ne sont pas assez, ça se voit comme le nez au milieu du visage, c'est-à-dire que tous les jours, ils sont obligés de faire des choix drastiques, ils ne peuvent plus tout couvrir. Donc pour le lecteur qui achète Libération, il ne sait plus ce qu'il va trouver dans Libération. Et les chiffres de vente de Libération sont là aussi, en dégringolade.
La relance et la reconquête autour de la marque Libération est un autre sujet qui est en cours aussi, qui elle aussi passera évidemment par le digital. En même temps, vous dites faire des choix, c'est pas forcément incompatible avec le métier de journaliste. Au contraire, je pense. Je crois qu'au fil des mois et des années, beaucoup de médias ne pourront plus tout couvrir, mais c'est pas forcément ce qu'attendent les lecteurs. S'ils savent à quoi s'attendre et ce pourquoi ils se dirigent vers tel ou tel titre, le paysage médiatique a considérablement évolué ces dernières décennies, même ces dernières années, avec évidemment le internet, le digital, mais même la télévision, les chaînes d'information en continu.
Donc vous mettez le paquet à la fois sur l'opinion et les opinions, on va dire, et les idées, en début et en fin de journal, et en même temps sur l'économie, parce qu'une des premières choses que vous avez faites aussi, c'est de tuer un journal qui a eu une grande aura à une époque, qui s'appelle Expansion, vous avez d'ailleurs commencé, qui est mort dans une indifférence générale, il faut bien le dire, et en même temps là, vous remusclez très sérieusement les papiers économie de l'Express, il y a 20 pages de cahiers économiques dans l'Express.
Je pense que l'économie est une clé d'explication du monde majeure aujourd'hui, que pour de mauvaises raisons, à mon sens, l'économie était trop absente de l'Express, elle est aussi pas assez présente à mon goût en tant que lecteur chez nos concurrents, mais c'est leur problème. Il y a peut-être pas cette appétence à la tête de ces journées.
Pour moi, journalistique, tout
simplement. Pour moi, c'est important, et c'est vrai que j'ai voulu montrer en arrêtant l'Expansion, comme vous le rappeliez, et en intégrant l'équipe de l'Expansion dans l'équipe de l'Express, être en situation de proposer chaque semaine une offre riche et diversifiée en matière d'économie, macro et micro, précisément pour aussi se démarquer et montrer des différences. Vous évoquiez l'opinion et le débat d'idées. C'est vrai que le débat d'idées et la pédagogie,
plus d'éditos en début de journal, plus d'éditorialistes. On voit que l'Obs va dans ce sens-là aussi. On voit que vous êtes quand même très loin derrière Le Point, qui a beaucoup d'avance dans cette matière. Plus d'idées à la fin du journal. Enfin, 3 papiers, c'est encore limité, mais peut-être que ça va s'étoffer.
Ça va grossir. Il y a une dizaine de sections aujourd'hui dans le journal chaque semaine, l'Express. Vous faisiez un zoom sur une ou deux. C'est l'ensemble qui est important pour le lecteur, parce que c'est une diversité d'angles, de récits et de points de vue quand il s'agit des idées et de l'opinion. Et j'espère que cette diversité, cette densification du journal sera de nature à intéresser et à plaire d'abord nos abonnés, c'est le plus important, et puis nos lecteurs occasionnels et demain de nouveaux lecteurs, j'espère.
Nouvelle formule de l'Express est en kiosque, et Guillaume Dubois, vous allez revenir très prochainement parce que nous allons parler d'Essai Faire Presse, que vous dirigez également, et on n'a pas eu le temps de l'évoquer aujourd'hui. C'est pourtant un modèle très innovant et qui pose beaucoup de questions. Bonjour Ali Rebey.
Bonjour Sonia De Villers.
Alors, rendez-vous face.
Comment rendre nos enfants moins accros au sucre? Comment vous y prenez-vous pour limiter le sucre dans l'alimentation de vos enfants? Quel rapport entretiennent-ils avec le sucre? Grand bien vous fasse à radiofrance.com et au standard d'Inter 01 45 24 7000.
La crème de marron, si je puis me permettre.